بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. دونك سوسي C'est notre deuxième assise, parmi six assises du rappel concernant ce phénomène destructeur qui est le sujet de l'heure, qui est tout simplement le football, ou si tu veux, le ballon de la destruction, ou le ballon du regret. Et je dis bien, ce sont des assises du rappel car Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de se rappeler mutuellement la vérité et de se conseiller mutuellement la vérité et de s'enjoindre mutuellement la patience. Le verset il est clair. Wadakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Il rappelle car le rappel est bénéfique aux croyants. Il est bénéfique aux croyants. Et nous avons dit hier, lors de la première assise, que le football était une hypnose sociale mondiale et que le football distrait de l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Et dans ces cas-là, quand on est sur un terrain de football, devant la télé à regarder le football, on est comme l'a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, assis sur le cadavre pion d'un âne. Et nous avons vu aussi que parmi les méfaits du football, les dégâts du football, c'est la perte du temps. C'est la perte du temps dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Et aujourd'hui, nous continuons avec certains méfaits du football. Et parmi les méfaits du football, il y a le manque de recueillement dans les prières. Et cela se produit lorsque le match est retransmis sur les chaînes satellitaires à l'une des heures de prière. Et celui qui vient à la mosquée, il vient alors que son cœur est attaché au match. Où sont donc le recueillement et la quiétude dans la prière, sauf pour celui à qui ton Seigneur a fait miséricorde? Le recueillement dans la prière et la quiétude sont réalisés par celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la réussite. L'affaire n'est donc pas comme le veut un tel ou un tel. Et la religion n'est pas comme le veut un tel ou un tel. La religion est uniquement celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréée et sur laquelle était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Et celui qui réussit est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala accorde la réussite. Nous sommes donc des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la quiétude et le recueillement sont une chose obligatoire dans la prière. Et qu'on se rappelle la situation de ce noble compagnon qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, qui entre un jour dans la mosquée et qui n'a pas eu la quiétude, il n'a pas accompli la prière comme il se doit. Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Retourne prier car tu n'as pas prié. » Bien qu'il fût un noble compagnon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui et l'agrée. Alors qu'en est-il par Allah de celui dont le cœur est préoccupé par un match de football? Hein? Et parmi les méfaits de ce ballon, et c'est un méfait immense et horrible et destructeur de quelque chose de très important, la négligence de la règle du désaveu et de l'alliance, et la perte de celle-ci, Et ceci est une situation très dangereuse et très grave pour le soumis Allah subhanahu wa ta'ala. Car il nous est obligatoire de nous allier aux croyants et de nous désavouer de l'association et des associateurs et de la mécréance et des mécréants. C'est une règle, c'est un fondement. Et dans le foot, le contraire se produit et se propage. Tu vois, ce supporter musulman aimait une équipe parmi les équipes de la mécréance parce qu'il a des talents, il joue bien et il aime ce joueur parmi les mécréants. En oubliant sa mécréance, il s'allie aux gens pour cette équipe mécréante et pour ce joueur mécréant. Et il imite ce joueur dans sa coupe de cheveux. Il porte son maillot. Il porte un maillot avec son nom et avec l'emblème de son équipe de mécréants. Tu le trouves ainsi, imitant ce joueur dans sa démarche et en toute chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque imite un peuple fait partie d'eux. Le noble cheikh, l'érudit, cheikh Zayd, le madkhali, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, a dit, pour l'explication de ce hadith, il sera châtié d'un châtiment semblable au leur dans l'affaire pour laquelle il les a imités. Donc la situation est très dangereuse. Tu imites dans sa coupe et dans sa démarche un ennemi d'Allah. Regarde le danger et l'ampleur de l'avertissement. Et parmi les méfaits de ce ballon, il y a des manifestations de violence. Rappelez-vous ce qui s'est passé lors du dernier match de la Coupe d'Afrique entre l'équipe du Sénégal et l'équipe du Maroc. Et méditez également sur la façon dont les femmes sortent des apparences qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Se montrant parées, embellies, teignant leur visage aux couleurs de l'équipe de leur pays. Et tu vois les filles sortir par les fenêtres des voitures et les jeunes enfants pendant que le père conduit la voiture ou que le frère conduit celle-ci. Est-ce là une façon d'agir du messager sallallahu alayhi wa sallam et de ses nobles compagnons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'eux? Puis après cela, nous disons, nous voulons libérer la Palestine. Qu'allons-nous libérer alors que nous transgressons les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'allons-nous libérer alors que nous ne sommes pas libérés de nos passions? C'est impossible. Nous avons besoin de gens qui réforment leur cœur et leur situation avec leur Créateur et qui reviennent à la religion sur laquelle était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de réformer notre situation et la vôtre. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide les égarés de notre communauté. Donc les manifestations de violence se produisent pendant ces matchs et tout le monde le sait. On ne peut pas cacher le soleil par un tamis. Quand une équipe perd, ses supporters sortent, brûlent les voitures et cassent tout. Et ils frappent les supporters de l'autre équipe qui les a battus. De même, parmi les méfaits de ce football, il y a le fait de ne pas baisser le regard, de ne pas être sage au niveau du regard et de zioter n'importe quoi. Et il est connu de tous que les joueurs de football et d'autres sports ne couvrent pas entièrement leurs cuisses. En cela, il y a de nombreux méfaits. Et ces choses, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, les propagent au sein de la communauté de l'islam, car ils n'aiment pas le bien pour cette communauté. Et ils n'aiment pas le bien pour la jeunesse musulmane. Au point que lorsque certains joueurs arabes en Europe portent quelque chose de long, l'entraîneur lui interdit, lui dit, « porte un autre short que celui-ci. Ou alors, le speaker, quand il le traîne, il fait des remarques. Et ces choses, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, les propagent au sein de la communauté de l'islam pour les éloigner de leur religion. Et parmi les méfaits du ballon du regret, ou du ballon de la démolition, parce qu'il démolit l'une des règles principales dans les croyances, qui est l'alliance et le désaveu. Et il démolit aussi le temps. Le temps est très important. C'est une perte de temps dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Et nous allons être interrogés sur notre vie. Et le temps est notre capital en cette vie d'ici-bas. Et nous serons questionnés et interrogés sur le temps. Comment donc le passé a regardé des matchs avec tous les méfaits que cela implique? Est-ce que ceci fait partie de ce qui va satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala de nous? Est-ce que ceci fait partie de ce qui va nous prévaloir les honneurs et la suprématie? Est-ce que cela fait partie de ce qui va amener le soumis à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala? Abadan, jamais de la vie. Comment donc l'être humain peut-elle se réjouir du temps qu'il passe dans une chose qui ne satisfait pas Allah subhanahu wa ta'ala? Comment l'être humain peut-il se réjouir d'une heure qui détruit sa journée, et d'un jour qui détruit sa semaine, d'une semaine qui détruit son mois, d'un mois qui détruit son année, et d'une année qui détruit sa vie? Comment peut-il se réjouir de cela? Comment peut-il se réjouir et perdre le temps de sa vie qui le conduit à son terme? Parmi les méfaits du foot également, il y a le fait que ce ballon encourage au gaspillage de l'argent. Et parmi ce qui a été publié durant cette Coupe du Monde, il y a le fait que certains Arabes et certains musulmans ont payé plus de 50 000 euros pour y aller afin d'y rester 6 semaines. Ceci inclut l'avion, les hôtels, les billets pour les tribunes, dans les stades et ainsi de suite. 50 000 euros, c'est le prix de 2 logements économiques au Maroc. Si seulement cela a été utilisé pour l'achat de 2 logements économiques dont profiteront des jeunes couples musulmans ou des couples qui sont sur le point de se marier et qui n'ont pas beaucoup de moyens, ou alors des pauvres qui vivent dans des taudés, ou alors acheter un appartement à quelqu'un et le marier et lui donner le reste pour qu'il fasse un projet, un commerce ou autre, cela aurait été bénéfique pour ce jeune et pour ceux qui l'ont aidé sur cette voie. Et est-ce que maintenant cet argent gaspillé, donné au trésor américain, directement sans intermédiaire, va être bénéfique à la personne? C'est auprès d'Allah que l'on cherche l'aide et la protection. Et parmi les faits du foot, également, il y a le fait qu'il s'y trouve du gaspillage et que cela encourage à l'achat de ces maillots avec les emblèmes de ces équipes de mécréance et avec les noms du joueur mécréant. Ainsi que l'achat de certains appareils qui permettent de recevoir tous les matchs qui se déroulent dans le monde. Les savants ont dit, et toute personne qui fait entrer ses appareils dans une maison et a fait entrer un mal immense. Et parmi les méfaits également, il y a le fait de ne pas baisser le regard. L'être humain dans ses matchs ne baisse pas son regard. Et Allah a ordonné aux croyants et aux croyantes de baisser le regard. Ainsi le joueur du football et les pratiquants d'autres sports, leurs vêtements sont au-dessus du genou et leurs cuisses apparaissent. Et ceci est un mal blâmable, contraire, qui est contraire à la pudeur et c'est une source de tentation. Et parmi ces joueurs, il y a des imberbes. Et parmi eux, il y en a qui sont d'une plus grande tentation que les femmes. De même, parmi les méfaits des matchs, il y a le fait de regarder les présentatrices qui exhibent leurs atours sur ces chaînes et autres. Et ceci est donc un grand danger pour le musulman et pour le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'épouse d'un homme ou l'une de ses filles peuvent être tentées par un joueur de football alors que le père est assis auprès d'elle à regarder avec elle le match. Et parmi les méfaits de ce football destructeur, il y a la perte du temps et c'est une situation très 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 grave. Le temps est précieux pour le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Le soumis à Allah qui est soucieux de ce qui lui est bénéfique et qui veut la satisfaction d'Allah et qui cherche l'agrément d'Allah, celui-ci est extrêmement soucieux de son temps et de la préservation de son temps par l'évocation d'Allah, l'adoration d'Allah, la lecture du Coran, l'apprentissage de la science bénéfique, l'œuvre pieuse et le gain licite. Le verset nous dit cela. Ô Yahya, tiens fermement au livre. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, sois soucieux de ce qui t'est bénéfique. Et il n'y a aucun doute, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, que regarder les matchs fait partie de ce qui ne profite pas à l'être humain et lui fait perdre son temps. Arrêtons-nous donc un instant sur la vie de nos pieux prédécesseurs pour voir comment ils se comportaient avec leur temps. Mohammed ibn Abdel Baqi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse plaisir encore, a dit, je ne sais pas que j'ai perdu une seule heure de ma vie en futilité, en jeu. Celui-ci sait ce que valait une heure pour lui. Il a dit, je ne sais pas que j'ai perdu une heure de ma vie en futilité, en jeu. Il sait qu'il n'a pas perdu une heure de sa vie en jeu et en futilité. Alors, pour nous, les choses sont inverses. Combien de temps on passe dans « ils ont dit, nous avons dit, ils dirent » et combien de temps avons-nous accordé à l'apprentissage de la religion? Ce qui est regrettable dans certaines maisons du hadith, certains se retrouvent pour, hein, on n'a pas d'autre lieu pour se rencontrer, on s'y trouve pour boire un verre de thé et discuter entre nous. Alors que les maisons du hadith ont un autre but. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Hein? Nos pieux prédécesseurs connaissaient la valeur de leur temps, contrairement à nos autres. Certains sages ont dit, comment peut se réjouir de ce bas monde celui dont le jour détruit son mois, et dont le mois détruit son année, et dont l'année détruit sa vie? Et comment peut se réjouir celui que sa vie mène à son terme et que son existence conduit à sa mort? Il faut, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, se rappeler souvent que nous sommes soumis à Allah et que chaque jour et chaque nuit nous conduit vers notre terme. Prenons donc garde et préservons. Et on doit préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous allons bientôt se tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous incombe donc de faire de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala la dernière chose avec laquelle nous quittons ce bas monde. Méditez la situation de l'homme dont je vous ai parlé hier qui est mort après avoir pris une tasse de café, il est mort sur son canapé devant la télé à regarder un match. Hein? Al-Hassan al-Basri, que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, a dit: ô fils d'Adam, tu n'es qu'un ensemble de jours. Chaque fois qu'un jour s'en va, une partie de toi s'en va. Chaque jour qui passe, une partie de toi passe avec lui. Khalil ibn Ahmed a dit: le temps se divise en trois parties. Un temps qui t'a quitté et qui ne reviendra pas. Et un temps dans lequel tu te trouves, regarde donc comment tu le quittes. Regarde donc comment il te quitte. Et un temps que tu attends, il se peut que tu ne l'atteignes pas. Regardez cette division du temps. C'est une division réelle. Un temps qui est passé et qui ne reviendra pas, c'est fini. Et un temps dans lequel on se trouve. Et un temps qu'on attend et peut-être qu'on n'atteindra pas. Méditez maintenant sur le temps qui est passé, il ne reviendra pas. Et donc, on ne doit pas se consumer au regret au sujet du temps passé. On ne doit pas perdre le temps actuel à regretter ce qui est passé. On ne doit pas tout le temps être observé par la pensée du temps qui est passé. Qu'hier tu es prié ou tu n'es pas prié, ce jour-là ne reviendra pas à toi, c'est fini. Et tu es maintenant dans un autre temps. Donc ce temps dans lequel tu es, ne le perds donc pas. En regardant ces matchs, en regardant des difficultés, en le passant dans des difficultés. Mais dis donc sur ce dans quoi tu passes le temps actuel et comment tu le passes. Ce temps dans lequel tu te trouves est un temps que tu as. Mais le temps que tu attends, il se peut que tu ne l'atteignes pas. Le lendemain que tu attends, ou l'heure après celle-ci que tu attends, il se peut que tu n'y parviennes pas. Sois donc le fils de ton temps et profite de ton temps et utilise-le dans ce qui va te réjouir le jour où tu trouveras Allah subhanahu wa ta'ala, où tu te retrouveras devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jour-là, il est proche. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Omar a été d'un conseil digne. Et il a été toujours digne du conseil. Mais là, c'est un noble conseil pour préserver le temps qu'il nous fait Abdullah ibn Omar, que Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Il dit: si tu atteins le soir, n'attends pas le matin. Et si tu atteins le matin, n'attends pas le soir. C'est-à-dire, si tu atteins le soir, accomplis l'œuvre du soir. N'attends pas le matin, car tu ne sais pas si tu te lèveras de ton sommeil ou pas. Et si tu atteins le matin, accomplis l'œuvre qui t'incombe le matin, car tu ne sais pas si tu atteindras le soir. Un poète a dit: les jours passent successivement et nous sommes conduits vers notre terme fixé. Et l'œil regarde et ne reviendra donc pas cette jeunesse qui est passée. Et ne cessera pas cette vieillesse affligeante. Hein? Donc, nous devons profiter du moment dans lequel on est. Et dans le hadith, d'après Abu Barz al-Aslami, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala ne bougera pas le jour de la résurrection de devant Allah jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur sa vie, en quoi il l'a passé, et sur sa jeunesse, en quoi il l'a passé, et sur ses biens, d'où il les a acquis, et en quoi il les a dépensés, et sur sa science, qu'a-t-il fait avec. Donc, frère, Allah subhanahu wa ta'ala, il est donc impératif pour chacun d'entre nous de parfaire sa situation pour le jour de la résurrection, pour le jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour le jour des comptes. et de se préparer pour les réponses qui lui seront posées, et de se souvenir qu'on sera interrogé sur la moindre des choses que nous avons faites dans cette vie, depuis l'âge de puberté jusqu'à notre mort. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le soumis sera interrogé sur sa vie. Dans quoi il a passé cette vie? Il a dit, et sur sa jeunesse. Dans quoi il a passé cette jeunesse? Et posons-nous la question. Ceci est très important. La jeunesse ne fait-il pas partie de la vie de la personne? Bien sûr qu'il fait partie de la vie de la personne. Mais cela te montre l'importance de cette partie de la vie. Hein? Qui est la jeunesse sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous posera des questions bien précises et spécifiques. Car la jeunesse est le printemps de la vie de l'être. Et c'est le temps de la force de l'être. S'il exploite dans ce qui satisfait Allah, il a gagné. Et s'il la gaspille, il aura subi une perte évidente. Il est donc indispensable de se préparer pour les réponses. Et les réponses doivent être correctes. Car il y a une réponse correcte. Car il y a une réponse correcte et une réponse fausse. Comme les questions dans l'épreuve de la tombe. L'hypocrite et le mécréant diront, je ne sais pas, ha ha ha. Et lorsqu'il sera interrogé, mais le croyant donne la bonne réponse. Préservons donc le temps dans lequel nous vivons. Saisissons l'opportunité dans laquelle nous nous trouvons. Et ne gaspillons pas notre temps dans n'importe quoi. Et parmi les corruptions également dans ce football, il y a le délaissement de la réprobation du blâmable. Et si une question se pose, celui qui est allé au stade, il est allé pour réprouver le blâmable? Dans le stade se trouve le dévoilement des cuisses des joueurs. Il se trouve aussi des paroles obscènes. Il se trouve aussi de la musique, le battement des tambours, des cris, des huyou. Il se trouve aussi le délaissement de la prière et son accomplissement en dehors de son temps. Et celui qui assiste au match dans le stade, il est allé pour réprouver le blâmable? Comment peut-il réprouver le blâmable alors qu'il est lui-même assis au milieu du blâmable et que son cœur est attaché à ce blâmable? De même, celui qui s'assoit devant la télévision n'est pas épargné de cela, car il s'est habitué et il a habitué son regard à ne pas le baisser devant ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et il a habitué le regard de sa femme et de ses enfants au blâmable. Comment donc peut-il réprouver le blâmable alors qu'il y est tombé lui-même? Et écoute, la sévère menace, si nous ne réprouvons pas le mal. Le verset dans la traduction nous dit cela. Ont été maudits ceux qui ont mécru parmi les enfants d'Israël, par l'intermédiaire de David et de Jésus, fils de Marie, cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient, ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres le blâmable qu'ils commettaient, comme est mauvais ce qu'ils faisaient. Donc cela te montre quoi? Cette situation est une calamité, est une situation très dangereuse. Et ce verset n'est pas spécifique aux enfants d'Israël uniquement. Ainsi nous aussi, si nous ne réprouvons pas le mal et le blâmable, une part de cette malédiction nous atteindra. La situation est grave, très très grave. Nous n'avons pas été créés et laissés libres à nous-mêmes. Nous n'avons pas été créés et laissés libres à nos passions et à faire ce que nous voulons. Nous sommes dit soumis à Allah Azza wa Jal et nous devons accomplir notre soumission. Nous nous soumettons à l'ordre d'Allah et à l'ordre de son messager alayhi salam. Nous devons réaliser cette soumission. Il ne nous appartient pas de nous comporter comme nous le souhaitons et de faire ce que nous souhaitons. Il est impératif que nous nous conformions à la législation d'Allah. Et dans le hadith d'après Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui, qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que celui d'entre vous qui voit un acte blâmable le change par sa main, s'il ne le peut pas, alors par sa langue, et s'il ne le peut pas, alors par son cœur, et c'est là le plus faible degré de la foi. Maintenant, est-ce que celui qui est assis maintenant dans les tribunes a regardé un match, en y étant émergé, alors que les cuisses des joueurs sont découvertes, que la musique vient de tous côtés, ainsi que le son des tambours, est-ce que celui-là a réprouvé le blâmable? Ou pourra-t-il réprouver le blâmable? Peut-être, dira-t-il, je réprouve par le cœur. Alors qu'il est au milieu du blâmable, et étant immergé, comment cela se peut-il? Comme je l'ai dit, les sons du tambour, les instruments de musique et les acclamations des hommes et les huées des femmes de toutes parts. De même pour celui qui est devant la télévision et avec lui ses filles et ses fils. Et parmi les grandes sources de corruption, il y a la perturbation des intérêts des musulmans. Et c'est auprès d'Allah que l'on cherche secours. Je suis sorti pendant un des matchs pour faire quelques courses. Ce match avait lieu après la prière de l'Asr. Les rues étaient vides. Je ne comprenais pas. Je ne savais pas ce qui se passe. Je suis allé voir certains vendeurs. Et voilà que leur esprit était captivé. Ils n'étaient pas là. Les yeux rivés sur l'écran. Il a bouche ouverte. J'ai parlé, ils n'ont pas entendu, jusqu'à ce que je fasse un bruit. Ils se sont agacés lorsqu'ils ont entendu mon bruit. Et je suis entré dans un supermarché. Et ensuite, je suis rentré dans un supermarché, parmi les grands supermarchés de notre ville. Et ce jour-là, j'ai réalisé que c'était un match de l'équipe nationale marocaine. Je ne le savais pas. Alors, lorsqu'il y a eu un but, ce supermarché a tremblé de bruit. Même les jeunes filles, les caissières, sont allées pour voir le ralenti du but. Et il y avait aussi, au grand hall de ce supermarché, un orchestre qui a rempli le droit d'acclamation, de yoyo, de musique et ainsi de suite. Il y a beaucoup de perturbations des intérêts lors de ces matchs. Ainsi, lorsque quelqu'un veut s'occuper d'une de ses affaires, il ne le peut pas jusqu'à ce que le match se termine. Surtout si le match oppose son pays à un autre pays. Et pendant ce match, tout était en suspens. Ils ont tout fermé. De quel droit les intérêts des gens sont-ils perturbés? Et c'est auprès d'Allah que l'on cherche l'aide et le secours. Et parmi les sources de corruption également, il y a la mixité entre les hommes et les femmes, dans les tribunes des stades et dans les cafés également. Je n'imaginais pas qu'il y aurait des femmes dans les cafés ici au Maroc. Et ceci est une immense calamité. J'ai vu cette année quelque chose que je ne pensais pas voir. Des femmes dans les cafés. Ils acclamaient. Ils criaient. Ils faisaient du youyou. Et cela explique l'invasion très forte que la communauté a subie. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de guider les égarés de notre communauté. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: préservez-vous de ce bas monde et préservez-vous des femmes, car la première tentation et la première des épreuves des enfants d'Israël fut sur à cause des femmes. Il n'y a aucun doute que c'est une immense et dangereuse situation. Tu trouves les jeunes filles parées exhibant leurs atouts aux couleurs de l'équipe nationale dans la rue, acclamant et poussant du youyou. J'ai vu des choses étonnantes ces jours-ci, dans les grandes rues de notre ville, que je n'imaginais pas. Et ceci, c'est la confirmation de la parole de notre messager sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: vous suivrez très certainement les voies de ceux qui vous ont précédés. Et c'est d'Allah que l'on implore l'aide. Et voici certaines fatwas des gens de science sur le jugement religieux du fait d'entrer dans les stades pour assister au match. Un questionneur dit: quel est le jugement religieux sur le fait d'entrer dans un stade de football pour regarder un des matchs? Et voici la première réponse du comité permanent des hommes de science. Il a dit que s'il n'y a pas la vision d'une partie intime et qu'il n'en découle pas ni animosité ni inimitié, alors il n'y a pas de mal en cela. Et le mieux est de délaisser cela, car c'est un divertissement. Et le plus souvent, y assister mène à manquer une obligation et à commettre un interdit. Et c'est par Allah que vient la réussite. Fin de la fatwa. Donc, si l'on découle le délaissement de la prière, qui est une obligation, alors ce n'est pas permis. Et quand les matchs ont eu lieu, le plus souvent au moment de la prière du Asr, et entre la prière du Maghreb et celle de l'Isha, et cette année, la plupart des matchs concernant le mondial ont eu lieu au milieu de la nuit. Et méditer sur la manière dont le visionnage de ces matchs entraîne cette année la non-présence à la prière de l'aube. Et la vision de ce qu'on ne doit pas voir des joueurs. Est-ce qu'il y a un match où l'on ne voit pas les cuisses des joueurs? Alors si ce visionnage t'entraîne vers l'interdit, et vers la vision de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, il te fait manquer une obligation, est-il permis pour toi d'y assister? Je te laisse la réponse, Akhal Islam. Et cette année, nous avons entendu et vu des choses des plus étonnantes, même de la part de ceux dont l'apparence est à la droiture. Et il n'y a de puissance et de force qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu ceux dont l'apparence est à la droiture dans des cafés, pour être dans l'ambiance des matchs, même si tu éprouvais, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, par la vision des matchs, alors cache-toi. Que diront les gens du commun lorsque celui dont l'apparence est à la droiture et au milieu des foules qui fument, au milieu des femmes dans le café et qui crient? Et voici une question qui fut posée à l'éminent savant, le Taymiyyin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Quel est le jugement sur la pratique du sport en short court, et quel est le jugement sur le fait de regarder celui qui fait cela? Qu'Allah lui fasse miséricorde a dit: la pratique du sport est permise s'il ne distrait pas d'une obligation, mais s'il distrait d'une obligation, alors il devient interdite. Et si c'est l'habitude d'une personne qui occupe la majorité de 100 ans, alors c'est une perte de temps et son statut le moins grave est d'être détestable. Comprends bien cette parole, le moins grave. Quant à celui qui pratique le sport, ne portant qu'un short court, duquel sa cuisse au plus apparaît, alors ce n'est pas permis. La vie correcte est qu'il est obligatoire pour les jeunes hommes de couvrir leurs cuisses et qu'il n'est pas permis de regarder les joueurs alors qu'ils sont dans cet état de découverte de leurs cuisses. Fin des paroles de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah. En résumé, frères en Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est la religion d'Allah. Et il est impératif pour l'homme de s'y conformer comme Allah le veut. L'homme doit donc être scrupuleux concernant sa religion. Écoute cette traduction approximative du sens du verset qui nous dit « Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écarteront de la voie d'Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi vous allez atteindre la piété. » Donc, ceci c'est le chemin d'Allah. Et ceci c'est la religion d'Allah. Et ceci c'est la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on prenne. Allah nous a ordonné de suivre cette voie dans toutes les situations de notre vie et de ne pas suivre les sentiers qui ne font pas partie de cette religion. Car ces sentiers nous éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils nous éloignent de notre religion. Ils nous éloignent de la voie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils nous éloignent de la voie de ses nobles compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection. Donc si nous voulons atteindre l'agrément d'Allah et réaliser réellement notre soumission à Allah et réaliser le véritable suivi du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous devons nous conformer à l'ordre d'Allah et à l'ordre de son messager alayhi salatu wassalam. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai laissé parmi vous deux choses, vous ne vous égarerez jamais tant que vous vous y accrochez, le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-il donc venu dans le livre d'Allah l'incitation à regarder un match de football ou d'autres choses pernicieuses parmi les divertissements? Et est-ce que les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam étaient ainsi, ou bien s'accrochaient-ils à leur religion, réalisant taqwa, qui est le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, conformément au livre et à la sunna, en espérant les récompenses d'Allah, et en s'abstenant ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, conformément au livre et à la sunna, en ayant peur du châtiment d'Allah. L'imam Ahmed, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, a dit: les fondements de la sunna selon nous sont de s'attacher à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de les prendre pour modèle. Par Allah, je vous demande, est-ce que les compagnons se sont consacrés au ballon et ont perdu leur temps dans les stades? Réfléchissons, méditons et relisons leur biographie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'eux, car ce sont eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait pour nous, a donné pour nous comme exemple, et il a rendu leur voie obligatoire pour nous, et il en a fait des modèles à suivre. Et écoutez le verset que vous connaissez. La traduction approximative nous dit: il était le premier croyant parmi les immigrés et l'ansar, leur auxiliaire, et ceux qui les ont suivis à la perfection, Allah est satisfait d'eux et ils seront satisfaits de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Méditez, frères en Allah subhanahu wa ta'ala, sur la manière dont les nobles compagnons passaient leur temps, même lorsqu'ils étaient en expédition militaire. Lorsqu'ils avaient un moment de repos, ils le passaient au tir à l'arc. Et ils passaient leur temps à monter à cheval et à réparer leurs affaires et à s'occuper du troupeau qui les accompagne. C'est ainsi qu'ils étaient, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'eux. Le sport, aucun nombre de sciences ne l'interdit. Mais le sport doit être conditionné par la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les activités sportives que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à pratiquer sont le tir à l'arc. Et parmi les choses similaires au tir à l'arc, le fait de tirer, d'aller dans un club de tir, de tirer, d'apprendre à tirer, à viser, etc. Et aussi la natation, et aussi l'équitation. Où est-ce qu'on se situe donc par rapport à ces trois formes de sport qu'a institué le messager pour nous, sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Et nous allons nous arrêter là, inshallah, pour aujourd'hui. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بارك الله فيكم وحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.